Seigneur, je te prie d'être avec ma bouche et avec mon cœur. Garde-moi, Seigneur, humble près de toi, ou plutôt, fais de moi un homme humble, Seigneur. Garde-moi, Seigneur, dans la vérité, que ta parole soit exposée. Et Seigneur, qu'en quittant ce matin, l'image qui reste dans les cœurs, dans nos pensées, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est cette alliance merveilleuse à laquelle tu nous invites tous. Je te prie, Seigneur, d'être avec chacun d'entre nous dans cette pièce ce matin. Père, plusieurs sont arrivés ici, le cœur troublé, le cœur tracassé, l'esprit préoccupé par toutes sortes d'inquiétudes. Je te prie, Seigneur, d'arrêter le temps pour nous, pour la prochaine heure. D'arrêter, Seigneur, toutes ces préoccupations. De nous aider à ouvrir notre cœur, à être entièrement disponible devant toi. Viens, Seigneur, exercer un ministère par ton Esprit Saint envers nous. Seigneur, ces paroles demeureront mortes dans nos cœurs si ton Esprit ne se saisit pas de nous, Seigneur. Et Père, pour toute personne dans cette salle qui n'est pas entrée dans cette alliance avec toi en Jésus-Christ, dépasse ma faiblesse, Seigneur. Dépasse notre faiblesse et viens faire éclater la gloire de cette alliance que tu offres à tous les hommes. Et Seigneur, que des âmes quittent ce matin, transformées, ayant contracté une alliance éternelle avec toi. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Matthieu 26, verset 17, nous sommes exactement dans le même passage que la semaine dernière. Je l'avais mentionné déjà que nous allions passer 2 semaines sur ce passage. Matthieu 26, 17 à 29, et je vais lire le passage. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui dit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. La semaine dernière, on a regardé ce passage et je me suis attardé surtout sur la question du pardon des péchés. Cette semaine, je veux regarder avec vous un autre aspect de ce passage. On retrouve Jésus ici au moment où il prend le dernier repas avec ses disciples. Un dernier repas avant son arrestation, avant sa crucifixion. Alors, ce n'est pas n'importe quel repas, d'accord? On doit réaliser qu'à cette époque-là, manger ensemble, c'était quelque chose de quotidien, de régulier. Jésus mangeait tous les jours avec ses disciples. Mais ce repas-ci prend un sens particulier aux yeux de Jésus. C'est un repas extrêmement spécial pour lui. C'est juste avant son arrestation et sa crucifixion. Maintenant, ce repas était spécial aussi pour une autre raison. C'était le repas de la Pâque. L'arrestation et la crucifixion de Jésus-Christ se sont produites pendant la fête juive de la Pâque. Et c'est important de réaliser que ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une simple coïncidence si cet événement déterminant dans l'histoire de l'humanité s'est produit précisément au moment de la Pâque juive. C'est parce que la fête qui était célébrée depuis des siècles par les Juifs, la fête de la Pâque, qui avait été instaurée par Dieu, annonçait, préfigurait l'arrestation et la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix. Cette fête-là que les Juifs célébraient depuis des siècles annonçait et préfigurait l'arrestation et la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix. Le passage qu'on regarde ce matin est chargé d'allusions, de références à des passages bibliques de l'Ancien Testament. Et pour saisir vraiment ce que Jésus annonce ici, pour essayer d'entrer un peu dans les pensées de Jésus, comprendre ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il est en train de communiquer pendant ce dernier repas avec ses disciples, il faut se rappeler ce que signifiait la Pâque pour les Juifs et ce que représentait cette alliance dont Jésus parle au verset 28. Jésus annonce une alliance. À quoi est-il en train de faire référence? Et je prends un instant pour faire une parenthèse, d'accord? Juste pour vous donner un encouragement. Un encouragement à lire la Bible. Lisez la Bible et lisez-la entièrement. Les gens dans la salle ici, qui lisent régulièrement, plusieurs fois par semaine, quelques passages des Écritures depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui étudient la Bible, vont ressortir d'ici éclairés plus richement que tous ceux qui ne connaissent pas l'Ancien Testament. Il y a des références ici puissantes, belles et majestueuses qui sont là. Et pour pouvoir les saisir dans toute leur splendeur, il faut connaître les Saintes Écritures. Ce livre se tient d'un couvert à l'autre, mes amis. Lisez la Bible, étudiez-la. On va faire un bref survol ce matin. On va aller voir des éléments dans l'Ancien Testament pour essayer de saisir le message de Jésus. Mais ceux et celles qui lisent ici les Écritures depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans vont voir la beauté de l'Évangile d'une manière beaucoup plus riche que les autres. Vous savez, à l'Église de l'Espoir, on vous encourage à lire la Bible, que ce soit à travers des petits outils comme le signet de lecture de la Bible. On vous encourage à prendre des cours bibliques le dimanche matin. Je sais, tantôt, ça sonnait dur. La mère, j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit là? C'est tellement dur. Mais il faut que vous compreniez, si on met tellement un accent sur l'étude, la lecture de la parole de Dieu, c'est pas pour faire de l'embonpoint spirituel qu'on fait ça. D'accord? C'est pas pour se bourrer le crâne et puis devenir des biblistes et on connaît parfaitement toutes les Saintes Écritures. On vous encourage à prendre des cours, à lire la Bible, à embarquer dans de la formation de disciples. On vous recommande des conférences, on amène des conférences à l'Assemblée, on vous présente des livres. C'est pas simplement pour se bourrer le crâne qu'on fait ça. Savez-vous pourquoi on fait ça? Pour adorer. Nous lisons les Écritures afin que la beauté de l'œuvre que Jésus-Christ a faite devienne de plus en plus majestueuse à nos yeux, que la lumière devienne de plus en plus grande. Et qu'en lisant les Écritures, en entendant le message de l'Évangile, nos cœurs soient portés dans l'adoration. Nous lisons et étudions les Écritures pour devenir des adorateurs de Dieu. Afin que lorsqu'on lit l'Évangile, lorsqu'on lit les Écritures, nous grandissions à l'image de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on lit la Bible. Autrement, ça ne sert absolument à rien. Nous lisons ces pages, nous les étudions afin d'être transformés de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Grandir comme adorateur, être pâmé devant la beauté de ce que Christ a accompli à la croix. En sorte à ce que ça transforme nos vies. Que ça vienne transformer nos relations à la maison, nos relations avec notre épouse, avec notre époux, nos relations de travail, notre témoignage, nos attitudes, notre manière de gérer notre argent, notre manière de gérer nos comportements, de nos pensées. Lisez la Bible. C'est bon? Lisez la Bible pour grandir comme adorateur de Jésus-Christ. Étudiez la Bible, venez au cours, prenez le temps. Il y a un objectif derrière ça, grandir comme adorateur. Fin de la parenthèse. Au verset 28, Jésus nous parle d'une alliance. Il annonce une nouvelle alliance. Vous savez, les hommes forment des alliances. On est familier avec cette idée-là, ce concept-là, si on parle d'économie, des alliances économiques, des alliances de guerre, des alliances même amoureuses. J'ai contracté une alliance amoureuse à vie avec mon épouse. C'est vrai? Esther et moi pour la vie en amour ensemble. C'est une alliance. On comprend les alliances dans ces domaines-là. Ce matin, je veux vous parler de l'alliance par excellence. La seule alliance qui ait une portée éternelle et, à vrai dire, sans vouloir offenser mon épouse, la seule alliance qui ne vous fera jamais défaut, parce qu'on parle d'une alliance avec Dieu. On parle d'une alliance avec cet être parfait. Ce matin, si vous n'êtes pas chrétien, je vous invite à entrer dans une alliance avec Dieu. Je vous invite à venir faire alliance avec votre Créateur. Et Dieu vous invite. À vous de choisir. Si vous êtes chrétien, je vous invite à réaliser davantage l'importance et la beauté de l'alliance dans laquelle vous êtes entré en Jésus-Christ. Réalisez davantage son implication dans votre quotidien. Ce qu'elle vient changer au quotidien dans nos vies. Maintenant, pour comprendre ce dont il est question, vous devez savoir que ce concept, cette idée de l'alliance, c'est une vieille idée dans la Bible. La Bible, c'est un vieux livre, d'accord? Je veux dire, le plus récent remonte à quelques milliers d'années, le plus jeune des livres de la Bible. Il y a 66 livres dans la Bible, 2000 ans, mais il y a plus vieux encore que le plus vieux des livres. L'alliance remonte au début de l'histoire de la Bible. C'est un vieux concept dans les Écritures. Et lorsque Jésus arrive ici dans Matthieu 26, il vient nous parler tout simplement d'une nouvelle alliance. Jésus s'en vient offrir aux hommes une nouvelle alliance à contracter avec Dieu. Jésus vient offrir une alliance plus excellente que l'ancienne alliance. Et cette nouvelle alliance avait été annoncée par les prophètes dans l'Ancien Testament. Jérémie, Ésaïe nous parlent de cette nouvelle alliance. Alors, laissez-moi vous parler un peu de l'ancienne alliance pour comprendre de quoi Jésus est en train de nous parler ici. Je veux que nous saisissions ce que Jésus est en train de nous proposer ici. Cette nouvelle alliance, cette alliance plus excellente, comme l'appelle l'auteur de la lettre aux Hébreux. Ce matin, on ne fera pas une étude exhaustive sur les alliances ou sur l'alliance, d'accord? Si je voulais étudier tout le sujet de l'alliance, je devrais commencer dans la Genèse, avec la création. Je vais m'arrêter essentiellement à l'alliance qui a été traitée entre Dieu et le peuple d'Israël au mont Sinaï. Parce que lorsqu'on parle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, essentiellement c'est de ça dont on parle. L'alliance traitée entre Israël et Dieu au mont Sinaï et la nouvelle alliance qui nous est offerte en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Alors dans l'Ancien Testament, Dieu avait contracté une alliance avec le peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, en termes simples, qu'est-ce que ça veut dire une alliance entre Dieu et des hommes? On comprend facilement une alliance entre deux pays, une alliance économique entre des entreprises, une alliance entre des êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire une alliance entre Dieu et de simples hommes comme vous et moi? Simplement, il s'agit d'un engagement formel entre Dieu et un peuple ou un homme. Il s'agit d'un engagement formel entre Dieu et un peuple ou un homme, même un individu. Dieu offre à un peuple de devenir son Dieu, son protecteur, son bienfaiteur. En fait, Dieu s'engage à prendre cette personne ou ce peuple et en faire son enfant chéri. En retour, la personne, l'être humain, s'engage à aimer et servir un seul Dieu, aucun autre Dieu, à l'honorer, à le respecter, écoutez bien ceci, à chercher à lui ressembler dans ses attitudes, dans ses comportements, c'est-à-dire suivre ses préceptes et ses lois. Encore, les lois de l'Ancien Testament, c'est l'expression de la personne de Dieu traduite dans des préceptes et des lois à la ressemblance de Dieu. Et celui qui s'engage dans une alliance avec Dieu s'engage à obéir aux préceptes de Dieu tout simplement pour ressembler à Dieu, pour être un reflet de la bonté, de la justice, de la sainteté, de la beauté de Dieu. Maintenant, lorsqu'on sait que selon la Bible, il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas plusieurs selon la Bible. Oui, il y a des dominations, il y a le diable, il y a des démons, il y a tout ça dans les Saintes Écritures, mais il y a un seul Créateur. Alors, lorsqu'on sait que selon les Saintes Écritures, il y a un seul Dieu, un seul Créateur, ça peut sembler un peu étrange l'idée qu'on doit faire une alliance avec Dieu. S'il y a un seul Dieu qui existe, pourquoi est-ce que Dieu ne s'impose pas à tous les êtres humains? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous dit pas, bien, je suis là, ou faites alliance avec moi, ou ça finit là? Pourquoi est-ce que Dieu nous invite à entrer volontairement dans une alliance? C'est pas comme s'il y avait vraiment d'autres options intéressantes. Il y a Dieu, puis avec qui est-ce que je pourrais faire une alliance si je ne le fais pas avec Dieu? Le diable? Maintenant, pensez-y, il y a Dieu et il y a le diable. D'accord? Il y a Dieu qui a créé toutes choses et il y a le diable. Est-ce que vous voulez faire une alliance avec Dieu ou avec le diable? Maintenant, si je ne fais pas une alliance avec le diable, je vais faire une alliance avec qui? Avec des hommes? Alors, on va mettre ça dans les proportions. Il y a Dieu, il y a le diable et il y a les hommes. D'accord? Dieu, le diable, les hommes. Je ne vais pas faire une alliance avec les hommes. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour moi dans l'éternité? Les hommes ont de la difficulté à conduire leur propre destinée. Ils ne savent pas quand ils naissent, ils ne savent pas quand ils meurent. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour moi dans l'éternité? Ce serait farfelu. Alors, on peut trouver ça étrange. S'il y a un seul Dieu qui existe, un seul Créateur au-dessus des cieux et de la terre, qu'il ne s'impose pas à tous les hommes, mais qu'il nous invite à entrer dans une alliance volontaire avec lui. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il est en train de faire ce matin. Si moi, je prêche avec vérité la parole de Dieu, je suis le serviteur de Dieu qui est en train de vous proposer de faire alliance avec Dieu ce matin. Et Dieu est en train de vous inviter à entrer dans une alliance avec lui. Pourquoi est-ce que Dieu ferait ça s'il y a un seul Dieu? Ça fait partie des mystères de la bonté de Dieu. Peut-être que Dieu n'est pas vraiment intéressé à avoir une relation avec des automates. Mais peut-être que Dieu veut avoir une vraie relation d'amour avec vous. Une relation dans laquelle vous allez décider d'entrer volontairement. À vous de choisir. Maintenant, lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, l'alliance que Dieu a contractée avec Israël a commencé par une délivrance. D'accord? Je vais faire un petit survol rapide de l'alliance qui a été contractée dans l'Ancien Testament entre Dieu et son peuple, parce que c'est la base sur laquelle on peut comprendre la nouvelle alliance. Cette alliance-là a commencé par une délivrance. Lorsque Dieu est venu vers Israël pour lui offrir cette alliance, il venait premièrement les délivrer. Retenez ceci, c'est extrêmement important. Si vous voulez saisir la nouvelle alliance, vous devez comprendre que l'ancienne alliance a commencé par une délivrance. Dieu a commencé par délivrer Israël, qui allait devenir son peuple, de l'esclavage. Israël était esclave en Égypte. Israël était esclave sous le peuple égyptien. C'était le cheap labor de l'époque. Tout ce que les Égyptiens ne voulaient pas faire, ils l'imposaient au peuple d'Israël. C'est du cheap, cheap labor. Et le peuple d'Israël, cette population, souffrait dans cet état d'esclavage. D'accord? Ils étaient misérables. Ils vivaient la misère et ils le savaient. Israël était misérable. Ils étaient des esclaves en Égypte et ils savaient que leur condition était une condition d'esclave misérable. L'alliance de l'Ancien Testament a commencé par une délivrance de l'esclavage. Retenez ceci, c'est extrêmement important. Maintenant, lorsque Dieu annonce la délivrance qui s'en vient, il invite le peuple juif à prendre un dernier repas en Israël alors qu'ils sont encore esclaves. Au moment de sortir, juste avant de sortir d'Égypte, Dieu leur donna des directives précises pour prendre un dernier repas en Égypte. Un repas qui allait prendre un sens spécial. Et on ne pourra pas entrer dans tous les détails de ce dernier repas, mais Dieu donne des directives spéciales à son serviteur Moïse. Moïse retransmet les directives aux anciens. Les anciens les retransmettent au peuple. Et pour la première fois, les Juifs ont pris à ce moment-là le repas de la Pâque. Voici, il devait immoler un agneau sans défaut, le manger cette nuit même, un agneau par famille, grosso modo, ça ressemblait à ça. Il devait mettre du sang de cet agneau sur les linteaux de la porte d'entrée de leur maison, afin que lorsque l'ange de Dieu allait passer, cette maison soit préservée du châtiment divin. Moïse a communiqué ses directives de manière très directe et très spéciale. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Exode. Genèse, Exode, Exode 12, verset 28. Vous pourrez prendre le temps de lire, si vous n'êtes pas familier avec l'Ancien Testament, cette semaine, Exode 12, et vous avez toutes les instructions, tout ce qui est expliqué là. Et à la fin, nous lisons, à la fin de cette partie, au verset 28, « Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. » Ils ont reçu des instructions bien précises sur ce dernier repas qui allait être pris, les instructions concernant l'agneau, concernant le sang, concernant le repas, qu'est-ce qu'ils devaient faire avec les restes aussi. Ils ont reçu ces instructions directement de Dieu parce que ce repas allait devenir un symbole majeur et important, non seulement dans l'histoire d'Israël, mais dans l'histoire de l'humanité, d'accord? Et le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont reçu les instructions, ont suivi ces instructions à la lettre. Moïse donne les directives et les gens du peuple d'Israël font exactement selon les directives. Et depuis ce jour, ce repas a été célébré une fois par année par les Juifs. Depuis ce jour, en commémoration, en mémoire de la délivrance que Dieu leur accordait en Israël, en Égypte. Une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? L'alliance n'est pas contractée encore. C'est la délivrance. On a un premier repas qui est donné, qui devient un repas commémoratif de cette délivrance. Maintenant, Dieu conduit son peuple à l'écart. Une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, il les conduit au mont Sinaï pour établir cette alliance entre lui et le peuple d'Israël. Dieu les conduit là pour donner des directives. Dieu va commencer par se manifester à son peuple dans toute sa gloire. Sur le mont Sinaï, le peuple va avoir une manifestation de la puissance, de la grandeur, de la gloire de Dieu. Tant et si bien que le peuple va supplier que Dieu arrête, que Dieu se taise, parce qu'ils sont impressionnés par la majesté de Dieu. Et alors, Dieu donne ses lois, ses prescriptions. N'est-ce pas? Il s'agit d'une alliance entre Dieu et les hommes. Dieu s'engage formellement à devenir leur bienfaiteur, leur protecteur, leur Dieu, à les aimer, à les chérir. Et le peuple, en retour, s'engage à n'avoir aucun autre Dieu dans son cœur, à ressembler à Dieu en observant ses lois et ses prescriptions. Quand vous lisez la loi de l'Ancien Testament, quand vous lisez les Écritures, quand vous trouvez des règles et des devoirs, des principes, ce sont tous des reflets de la personne de Dieu. Ce sont des outils que Dieu nous donne pour apprendre à lui ressembler. Littéralement, c'est ça. Et donc, Dieu va leur donner toutes les règles, toutes les lois à observer, toutes les prescriptions pour devenir le peuple de Dieu. Parce que dorénavant, il va y avoir une alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël devient son peuple. Au moment où Israël contracte une alliance avec Dieu, il porte le nom de Dieu. Et lorsque tu portes le nom de Dieu, quand tu deviens un représentant de Dieu sur la terre, tu dois lui ressembler. Tu dois porter son nom dignement. Tu dois ressembler à Dieu. Pas aux autres dieux, idoles, aux autres cultes. Ils vont porter le nom de Dieu, le représenter sur la terre. Ainsi, tout ce que vous trouvez dans Exode, Lévitique, Deutéronome, ce sont ces engagements mutuels entre Dieu et son peuple, le peuple d'Israël. Un peuple qui porte le nom de Dieu et qui va ressembler à Dieu. Dieu les délivre. Dieu leur donne un repas comme mémorial pour se rappeler de cette délivrance. Ils ne savaient pas encore à l'époque que ça annonçait une plus grande délivrance. Dieu les conduit à l'écart. Il se révèle à eux. Il leur donne des prescriptions, des lois. Il leur présente le contrat à signer pour entrer dans l'alliance. Voici ce à quoi je m'engage, moi Dieu, envers vous. Voici ce à quoi vous vous engagez envers moi pour devenir mon peuple. Et après leur avoir donné ces lois et les conditions de l'Alliance, Moïse réunit le peuple. Tournez avec moi dans Exode 24. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Exode 24. Je vais vous lire les versets 3 à 8. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois, parce que le peuple doit savoir dans quoi il s'embarque. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » C'est l'engagement. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, le contrat. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. C'est un engagement solennel entre Dieu et des hommes. C'est un engagement formel entre Dieu et des hommes. C'est ça qui est en train de se passer ici. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple et nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Ne soyez pas cyniques, s'il vous plaît, si vous connaissez l'Ancien Testament. Moïse prit le sang, écoutez bien ceci, et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. » Est-ce que ça vous rappelle d'autres paroles qu'on vient de lire? « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. » Et avec ce geste, l'Alliance a été scellée entre Dieu et le peuple d'Israël. Avec le sang qui a été versé, l'Alliance entre Dieu et le peuple d'Israël a été scellée. Encore une fois, un sacrifice est le sang qui vient sceller l'Alliance entre Dieu et son peuple. Et ils sont en route vers la terre promise. Ils ne sont pas rendus encore. Mais avant de se rendre à la terre promise, ils vont contracter cette alliance avec Dieu. Ils vont avoir été délivrés, ils vont contracter une alliance avec Dieu et ils prennent la route vers la terre promise. Ils ont été délivrés de l'esclavage, Dieu leur présente l'alliance, ils entrent dans l'alliance et prennent la route vers la terre promise après avoir scellé cette alliance par le sang. Ça, c'est l'ancienne alliance que Dieu avait traitée entre Israël, son peuple, et lui. Maintenant, les années ont passé et un jour dans l'histoire d'Israël, les prophètes de Dieu ont commencé à parler d'une nouvelle alliance. Et si vous avez lu l'Ancien Testament, vous connaissez l'espèce d'histoire chaotique, l'histoire d'Israël qui est faite de montagnes russes, où Israël est infidèle à son alliance, tombe dans le péché, Dieu sévit selon l'engagement de l'alliance, Dieu châtie son peuple selon son engagement. Et le peuple se repent et revient à Dieu, puis on va jouer au yo-yo comme ça pendant des années, pendant des siècles. Alors, à un certain moment donné dans l'histoire d'Israël, les prophètes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui reçoivent un message de Dieu pour le peuple, commencent à parler d'une nouvelle alliance, une alliance plus excellente, une alliance différente, différente parce qu'elle sera parfaite, différente parce qu'elle permettra à Dieu de donner son esprit à chacune des personnes qui entrent dans cette alliance. Ainsi, on trouve à travers le récit des juges, des rois, tous ces échecs, et on trouve à travers les livres des prophètes l'annonce d'une meilleure alliance, une alliance plus excellente à travers laquelle Dieu donnerait son esprit à chaque personne qui entrerait dans cette alliance. Dieu annonça par ses prophètes qu'une nouvelle alliance viendrait et que par cette alliance, le peuple marcherait avec Dieu. Chacun individuellement choisissant de marcher avec Dieu, et cette alliance serait offerte à toutes les nations de la terre. Sans ces prophéties, on n'est pas ici. Sans ces prophéties, tout se passe en Israël, il n'y a rien pour nous. Il y a combien de Juifs ici? Excusez-moi, je ne suis pas. Est-ce qu'il y a... Oh! Alors, on aurait un invité, un bienvenu. Et qu'est-ce qui fait que c'est offert à des païens comme vous et moi? Parce que la Nouvelle Alliance était plus littéralement offerte à toutes les nations de la terre. On arrive donc dans le Nouveau Testament avec la venue de Jésus-Christ. Jésus est Emmanuel, Dieu parmi nous, nous dit Matthieu au début de son livre. Donc Jésus vient pour nous présenter, nous offrir cette nouvelle alliance et nous arrivons dans Matthieu 26, le passage de ce matin, avec le dernier repas, avec cette déclaration de Jésus dans Matthieu 26, 27. En leur présentant une coupe, Jésus déclare « Buvez-en tous ». Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Jésus nous parle d'une alliance, d'une nouvelle alliance et utilise exactement le même langage que Moïse avait utilisé au moment où l'Alliance a été scellée avec Israël. C'est le sang de l'Alliance. Ceci est le sang de l'Alliance. Voyez-vous, l'ancienne Alliance a été remplacée par une alliance nouvelle, plus grande et plus belle. Et c'est celle-là que Jésus-Christ a apportée. Maintenant, je vous ramène dans l'histoire d'Israël un instant. Au moment de l'ancienne alliance, Dieu a commencé par délivrer Israël. Vous vous rappelez? Dieu a commencé par libérer Israël de l'esclavage. Et c'est vrai, Israël était dans une condition misérable. Ils étaient esclaves en Égypte. Et cela a été une délivrance glorieuse. Maintenant, si on lit la suite de l'histoire d'Israël, c'est pas long qu'on découvre qu'Israël avait besoin d'une autre délivrance. Êtes-vous d'accord? Une délivrance beaucoup plus importante. Les hommes avaient besoin d'une plus grande délivrance encore que la délivrance de l'esclavage. Et cette délivrance-là, tous les hommes de la terre, toutes les femmes de la terre en ont besoin. Il y a quelque chose de pire qu'être esclave d'un homme. Il y a quelque chose de plus cruel et de plus dur qu'être esclave d'un être humain. Il y a un esclavage universel. Tous les êtres humains sont esclaves d'une même manière et bien pire que d'être esclave d'un homme. Et il s'agit de l'esclavage du péché. Et c'est pour ça qu'au début de l'évangile de Matthieu, l'ange annonce que Jésus va venir libérer son peuple de ses péchés. Parce qu'il y a un esclavage plus grand qu'être esclave d'un homme, et c'est être esclave du péché. Cet esclavage-là, nous le subissons tous. Tous les hommes, toutes les femmes sur la terre savent au fond de leur cœur qu'ils sont esclaves du péché. C'est à cause de cet esclavage qu'il y a des divorces. C'est à cause de cet esclavage que nous sommes infidèles, que nous sommes égoïstes, que nous sommes méchants, menteurs, violents. Cet esclavage-là ne se manifeste pas qu'à une échelle mondiale, d'accord? C'est tellement tentant pour nous de voir le mal à travers les guerres sur la terre, à travers la pauvreté, à travers les mauvais traitements. Et c'est vrai, c'est une manifestation de l'esclavage universel du péché qu'il y a à travers les guerres, les avortements, les mauvais traitements, la pauvreté. Ce sont tous des manifestations de cet esclavage universel. Tous les hommes sont esclaves du péché. Et ça se manifeste à cette échelle-là, à l'échelle mondiale. Mais cet esclavage se manifeste aussi à une échelle individuelle. Et ce que vous appelez à être un problème avec l'argent est en fait un problème avec l'esclavage du péché. Ce que vous appelez être un problème dans les relations humaines est en fait un problème avec l'esclavage du péché. Ce que vous appelez être un problème avec des dépendances est en fait un problème avec l'esclavage du péché. Et si certains d'entre vous, vous pensez ne pas être esclaves de vos passions, esclaves de vos convoitises, parlez-en à vos ex-blondes, à vos anciens chums, à vos anciens amis. Ils vont vous dire que vous êtes esclaves du péché parce qu'ils l'ont subi. Ils ont subi votre esclavage. Non seulement le leur, mais le vôtre aussi. Parce que ça vient corrompre et détruire toutes nos relations. Tous les êtres humains sont pris sous l'esclavage et l'emprise du péché. Et c'est vrai qu'Israël avait eu une délivrance extraordinaire lorsqu'ils ont été libérés de l'Égypte. Mais le reste, la suite de l'histoire d'Israël, nous démontre qu'il y avait une plus grande délivrance qui devait venir. Il devait être libéré d'un plus grand esclavage qui était celui du péché. Nous sommes tous esclaves du péché. Matthieu nous dit au début de son évangile que Jésus a été envoyé pour libérer son peuple de ses péchés. Et il ne s'agit pas que de la libération de l'esclavage d'Égypte, mais la libération de l'esclavage du péché. L'apôtre Paul dit aux chrétiens, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, « Autrefois, vous étiez esclaves du péché, maintenant vous êtes libres en Jésus-Christ. » Jésus-Christ est venu nous inviter à entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Et comme on l'a vu tout à l'heure, tout ceci a commencé par une délivrance et tout ceci peut commencer par une délivrance encore aujourd'hui. Jésus est venu mourir sur la croix, donner sa propre vie en sacrifice et c'est ce qu'il nous annonce, c'est ce qu'il annonce à ses disciples au moment du dernier repas. Donc, il est venu donner sa vie en sacrifice pour que nous puissions être délivrés de l'esclavage du péché. Et c'est ça qui rend possible une alliance avec Dieu. Maintenant, pour être libéré de l'esclavage du péché, encore faut-il être conscient de sa misère. Imaginez un instant que les Juifs en Israël avaient dit « Ah, c'est cool. Non, j'aime ça me faire frapper. Ah, c'est correct, tu sais, ici, je veux dire, on a une maison, puis pas grave, il y en a une couple qui meurt, mais c'est cool. » Qu'est-ce que Dieu aurait fait? Il serait parti de là. Tout à l'heure, je l'ai dit, une alliance entre Dieu et les hommes, c'est une invitation de la part de Dieu, et c'est un choix de l'homme de venir entrer dans cette alliance. Alors, pour qu'Israël puisse bénéficier de cette délivrance qui lui était offerte, il fallait encore qu'Israël réalise sa misère. Et voyez-vous, si vous entendez constamment le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et que tout cela vous indiffère complètement, vous êtes indifférent à ce message-là, vous ne comprenez pas en quoi c'est une bonne nouvelle. Je vais dire quelque chose de terrible, d'accord? Je prie que dans sa grâce, Dieu vous fasse goûter davantage à l'amertume de votre péché. C'est terrible, hein, ce que je dis là. Mais tant et aussi longtemps que vous ne goûterez pas à la misère du péché et à son processus d'autodestruction dans vos vies, vous n'aurez pas faim et soif de délivrance et d'être libéré en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de nos péchés. Cette délivrance, Dieu l'a rendue possible par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est en s'offrant un sacrifice à la croix, par sa mort, que Jésus rend possible cette délivrance et qu'il rend possible cette alliance. Et au moment de ce dernier repas, Jésus annonce encore par ce symbole du pain. Ce n'est pas fait encore, ce n'est pas accompli, mais il est en train d'annoncer par ce symbole du pain et du vin que son corps va être brisé, que son sang va être versé sur la croix. Et par son sacrifice, la délivrance, le pardon de nos péchés va être rendu possible à tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Jésus vient donner un nouveau sens au repas de la Pâque. La Pâque ne symbolise plus seulement la libération d'Israël en Égypte. La Pâque vient symboliser maintenant la libération de l'esclavage du péché. On ne parle plus seulement d'un agneau immolé, mais on parle du Fils de Dieu, l'agneau parfait qui va être immolé sur la croix. Et c'est le sang versé de Jésus-Christ qui rend possible cette délivrance. Enfin, Jésus dit que son sang versé nous offre une nouvelle alliance. Le sacrifice de Jésus-Christ rend possible une alliance entre Dieu et les hommes et il revient à chaque homme et à chaque femme de choisir d'entrer dans cette alliance avec Dieu. La délivrance et le pardon des péchés est possible par le sang de Christ. Ça veut dire que si vous prenez un autre chemin pour vous rendre à Dieu, Dieu ne signera jamais de contrat avec vous. C'est ça que ça veut dire? Vous dites, ouais, Jésus, ouais, c'est cool, ouais, il était pas mal hot, il est mort sur une croix, c'est bon. Peut-être qu'il y a d'autres chemins pour me rendre à Dieu. Dieu ne signera jamais le contrat. Parce que Dieu est saint, Dieu est parfait. Et Dieu va entrer dans une alliance avec vous si vous avez été sanctifié, purifié, justifié par le sang de l'agneau, comme on l'a chanté tout à l'heure. Passez par un autre chemin, il n'y en aura pas de signature de contrat. Parce que seul Christ est mort sur la croix pour vos péchés. Mais à celui qui croit, à celui qui accepte le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour lui, l'alliance est possible et Jésus accepte de nous inviter à entrer dans cette alliance avec lui. L'entente, la loi de Christ, dans quoi vous vous engagez, parce que tantôt on a dit, hein, dans l'Ancien Testament, vous avez la loi, c'est simple. Vous êtes en train de réfléchir à ça. Vous venez à l'église semaine après semaine ici, vous entendez le message de l'Évangile, puis vous dites, « Ouais, mais ça a de l'air gros, tout ça, je ne sais pas c'est quoi. Dans quoi je m'embarque? C'est quoi l'alliance? C'est quoi l'entente? C'est quoi le contrat que je vais signer? » Commencez par lire Matthieu. Lisez Matthieu cette semaine. Lisez Matthieu cette semaine, vous allez entendre Jésus vous présenter sa relecture de la loi. Vous allez entendre la loi de Christ. Vous allez voir le style de vie dans lequel vous vous engagez. Je parle aux chrétiens ici un instant. Vous comprenez, c'est ça le Nouveau Testament. Hein? C'est l'entente qu'on a signée avec Jésus-Christ lorsqu'on est devenu chrétien. Nous lisons le Nouveau Testament en disant, voici le contrat que j'ai signé avec toi. Toutes ces lois que tu me donnes lorsque tu me dis d'aimer mon ennemi, de pardonner, de faire du bien, de ne pas m'attacher à la vie ici-bas, c'est le contrat que j'ai signé avec Christ en croyant en lui, en entrant dans cette alliance. Parce que tous ces principes, c'est simplement le reflet de Jésus-Christ. Tous ces principes me montrent qui est Jésus et comment je devrais me comporter si je veux ressembler à Jésus-Christ. Alors, lisez Matthieu, lisez l'alliance qui est proposée. Allez regarder le sacrifice qu'il accomplit à la croix. Considérez ces choses devant Dieu. Allez dans la prière et questionnez-vous. Questionnez-vous et questionnez Dieu pour savoir si vous êtes esclave du péché. Cherchez dans votre vie ces manifestations de l'esclavage du péché. Et si l'Esprit de Dieu vous saisit, vous allez le voir, mes amis, je peux vous le dire. Tournez-vous vers Christ, simplement, dans la prière, et dites, « Seigneur Jésus, je suis esclave du péché. Et par moi-même, je n'arriverai jamais à briser ces liens. Il n'y a pas une thérapie qui va faire de vous un non-pécheur. » Savez-vous ça? Il n'y a pas une thérapie sur la terre qui va faire de vous un non-pécheur. Allez dans la prière, considérez ces choses. Peut-être que vous avez déjà essayé plusieurs thérapies. Vous avez lu plusieurs bons livres de self-improvement. Et allez considérer le pardon qui vous est offert en Jésus-Christ pour entrer dans cette alliance. Et si votre cœur est prêt, si l'Esprit-Saint vous a préparé, simplement dites à Christ, « Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix pour mes péchés. Viens me délivrer, viens me libérer de cet esclavage du péché. Et je m'engage à entrer dans une alliance avec toi. Je vais lire ta parole et la lire pour savoir tout ce que tu veux me dire. La laisser me transformer parce que je veux te ressembler. Je vais porter ton nom dorénavant. Dorénavant, on m'appellera chrétien. Je porterai le nom de Jésus-Christ. » C'est une invitation que je vous fais ce matin à entrer dans l'Alliance. Et si vous êtes déjà chrétien, c'est une invitation à considérer la beauté de l'Alliance que vous avez traitée avec Dieu, que vous avez contractée avec Dieu. Ce matin, on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Et exceptionnellement, j'ai demandé à ce qu'on puisse le faire à la fin. C'est tellement plus riche de prendre le repas du Seigneur après avoir lu ce passage, n'est-ce pas? Parce qu'on considère la beauté de l'alliance dans laquelle nous sommes entrés. Voyez-vous, les chrétiens, les apôtres nous ont instruits et les chrétiens, après le départ du Seigneur, ont continué à faire cette dernière partie du dernier repas de la Pâque lorsque Jésus a partagé le pain et le vin. Maintenant, juste un commentaire sur ce que vous avez entendu, ce qui est enseigné parfois sur le sens. Lorsque Jésus dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », est-ce que vraiment il y a le corps, est-ce que vraiment il y a le sang? Bien, c'est un anachronisme. OK, vous irez chercher ça dans le dictionnaire. C'est un anachronisme de croire que ça peut être le sang et le corps de Jésus, littéralement. Ça ne fonctionne pas dans le déroulement de l'histoire. Il faut comprendre que les premiers disciples ne pouvaient pas voir dans le pain qui leur était donné et la coupe qui leur était donnée, le corps et le sang de Jésus pour une raison toute simple. Jésus est là devant eux. Alors vous comprenez, Jésus n'a pas... Excusez-moi, je vais être un peu grossier. Jésus n'a pas pris un canif. Il n'a pas commencé à partager le lunch. Et lorsqu'il est arrivé à la coupe, il a rempli une coupe, commencé à partager. C'est pas ça qui s'est passé. D'accord? C'est simple. Pour les premiers disciples, c'était un symbole. Jésus était là physiquement devant eux. Et c'était un mémorial pour représenter ce que Christ allait faire bientôt à la croix. Ainsi, lorsque nous prenons ici le pain et le jus de raisin, on n'est pas en train de crucifier encore une fois Christ. Tout a été accompli parfaitement. Maintenant, j'aimerais attirer vos regards. Regardez avec moi, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, regardez avec moi le verset 29. Souvent, on prend le repas du Seigneur et toute notre attention est concentrée sur le fait qu'on est en train de prendre un mémorial. N'est-ce pas? Maintenant, regardez bien ce qu'il dit au verset 29. Parce que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le repas du Seigneur, ce n'est pas seulement un mémorial, ce n'est pas seulement un geste commémoratif. C'est un geste prophétique. Lorsque les Juifs en Israël ont pris le premier repas de la Pâque, ils célébraient la délivrance, mais n'étaient pas encore rendus dans la terre promise. Vous suivez ça? Ils étaient encore en Égypte. Regardez bien ce que Jésus dit au verset 29. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » On n'est pas encore rendu dans la terre promise. On n'est pas encore dans la présence physique de Christ. Et lorsque nous prenons le repas du Seigneur, on le prend pour se rappeler de son sacrifice pour nous, son corps brisé, son sang versé, mais nous le prenons aussi pour nous rappeler que nous attendons ce jour glorieux où nous prendrons le repas avec lui dans la terre promise, dans sa présence. On va prendre un cantique ensemble, un chant, et je vous invite peut-être à rester en silence, peut-être à chanter, mais à méditer ce que Christ a fait pour nous.
C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus que la neige, que la neige. Ô Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté, je suis plus. Que la neige, que la neige. Ô Jésus, toi l'agneau immolé. Ô Jésus, toi l'agneau immolé.
Est-ce que je peux vous demander de m'apporter un petit bout de pain, une petite coupe? va aller ensemble dans un mot de prière, s'il vous plaît. Ô Seigneur Jésus, je ne te cherchais pas, Seigneur. Ma mère me parlait de l'Évangile, cette Église me parlait de l'Évangile, mais je ne te cherchais pas, Seigneur. En fait, à vrai dire, Seigneur, pendant des années, j'ai été si confortable dans mon péché. Ce que tu appelles un esclavage, Seigneur, j'y trouvais un grand plaisir. Et dans ta grâce, oui, dans ta grâce, Seigneur, tu m'as fait goûter la misère de mon péché. J'ai vu, Seigneur, des amis tenter de s'enlever la vie. J'ai vu mon incapacité profonde à m'engager dans une relation amoureuse. J'ai découvert, Seigneur, toutes mes convoitises dans mon cœur, toutes ces passions qui me tourmentait, Seigneur. Et j'ai réalisé, Seigneur, que je ne tenais aucun gouvernail dans ma propre vie, mais j'étais conduit par toutes sortes de passions. Et dans ta grâce, tu as ouvert les yeux de mon cœur. Cet évangile qu'on m'annonçait depuis des années, depuis que j'étais tout petit. Dans ta grâce, tu as ouvert les yeux de mon cœur afin de rendre compréhensible, Seigneur, à un cœur pécheur, cette grâce qui m'était offerte en Jésus-Christ, cette délivrance et ce pardon. Seigneur Jésus, je célébrerai par ta grâce toute ma vie ton sacrifice à la croix pour moi. Et Seigneur, je réalise encore davantage aujourd'hui que je suis entré dans une alliance éternelle avec toi. J'ai contracté, Seigneur, une alliance éternelle avec toi. Tu m'as pris sous ta protection, Jésus-Christ. Tu m'as donné accès à mon Père céleste. Je peux dire aujourd'hui avec confiance, malgré mes péchés, malgré ma faiblesse, je peux dire avec confiance au Créateur des cieux et la terre, Père céleste. Et je sais que toute chose dans ma vie concourt à mon bien, que mon Père fait concourir maintenant toute chose à mon bien à cause de ta faveur en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, par ce mémorial, je renouvelle mes vœux envers toi, Seigneur. Je m'engage à honorer cette alliance glorieuse, Seigneur. Et je vais manquer encore si souvent, je vais pécher si souvent. Merci pour ta provision complète, le pardon parfait qu'il y a en toi, Seigneur, parce que je manque encore si souvent à cette alliance. Seigneur Jésus, j'attends le jour où je te verrai face à face, où nous prendrons ce repas ensemble, Seigneur. Tout ceci ne sera plus pour moi un mémorial, mais une célébration de ta beauté, de ta gloire et de ton œuvre à la croix, Seigneur. J'attends ton retour, Jésus-Christ. J'attends d'entrer dans la gloire, dans ta présence. Sois béni, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.